Bonjour à chacun, vous allez bien? Allez, c'est notre rendez-vous chaque semaine pour lire la Bible ensemble et la méditer. On va ouvrir ensemble dans le livre du Deutéronome au chapitre 11. Il y a des passages comme ça que vous lisez par habitude et un jour, alors que vous êtes en train de lire votre Bible, votre regard s'arrête, votre cœur est touché parce que ce livre est inspiré de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé, et on parle mieux de ce qui nous a touchés, donc je veux parler de quelque chose qui m'a touché. On va ouvrir ensemble dans le livre du Deutéronome au chapitre 11, et on lira ensemble à partir du verset 10. Ensemble à partir du verset 10. C'est Moïse, alors qu'il s'apprête à partir dans la gloire, la destination finale. Il veut donner quelques conseils à ses enfants, à ses bien-aimés, avant de partir. Et il leur parle, et c'est Dieu qui inspire les mots dans sa bouche, et il dit à son peuple, les Israélites, il dit, le pays où tu vas pénétrer pour prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Écoute bien ce matin. Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos semailles, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds comme un jardin potager. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, arrosé par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel votre Dieu, en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur vous la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie du printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, du vin nouveau et de l'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Amen. Wow, quelle promesse de Dieu incroyable. Et vous voyez le thème de ce matin? Celui qui est sur mon cœur, c'est le thème des norias. Les norias. Il y a un temps où tu devras quitter tes sécurités passées si tu veux entrer dans ta destinée. Il y a un moment où tu devras quitter tes sécurités passées si tu veux entrer dans ta destinée. Vous savez, j'étais prof de management jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, jusqu'il y a quelques mois. Et il y a une étude de cas qu'on fait souvent avec nos élèves, c'est le cas de Nokia. Qui a eu un portable Nokia un jour ici dans la salle? Levez la main. Ok. Qui a un portable Nokia aujourd'hui? Non, levez la main. C'est pas une honte, c'est un très bon modèle. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Je n'ose demander qui a un portable Nokia et qui a moins de 20 ans. Il y a presque plus personne. Si, il y en a un, deux. Ah, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, Eugénia, tu as triché, tout le monde t'a vu. Ce que je veux dire, c'est que vous étiez 80% à lever la main quand j'ai demandé qui a un portable Nokia. Vous savez pourquoi? Parce que Nokia a une idée et a extrêmement bien développé son produit dans les années 2000. Ils étaient numéro un sur le marché. Nokia, ce géant suédois et à finlandais, dans les usines étaient dans ces deux pays. A réussi à inonder le marché. Le fameux 6310, incassable, le seul qui, quand tu tombes de ton bain, il y résiste encore. Il tombait dans l'eau, il se rallumait. Vous le tombiez par terre, il se rallumait et il durait plus longtemps que les autres. C'était une invention géniale. Un vrai téléphone qui marchait à l'époque, c'était tout ce qu'on demandait. Ils ont complètement manqué. Ils ont complètement manqué le nouveau pays. Le pays d'Internet, le pays où tu regardes tes mails sur ton portable. Le pays où tu as des supports qui sont différents, avec des micro SD, tout ça. Ils ont complètement raté le virage. Ils sont restés, vous voyez, dans leur pays d'Égypte. Ils n'ont jamais réussi à passer dans le pays de la promesse. Et c'est très dommage. Aujourd'hui, les PDG se succèdent, sont virés les uns après les autres. Et aujourd'hui, on pense que c'est probablement la fin de Nokia qui va devoir se faire manger. Alors, eux qui avaient donné tellement de leçons aux autres, qui avaient résisté. On peut être un géant en Égypte, apprendre à développer des idées, des forces qui te serviront à plus à rien. dans le pays qui vient après. Et ça, c'est difficile de se remettre en question parce qu'on est tous, attachés à ce qui a marché dans notre vie. Il y a des choses que vous avez développées qui ont marché. Alors pourquoi je parle de noria ? Regardez ici l'image. Ça, c'est une noria. Une noria, c'est rien d'autre qu'une roue, mais une roue que les Hébreux utilisaient, ce peuple qui était esclave, lorsqu'ils étaient en Égypte. Pourquoi ils utilisaient cette roue ? L'image d'après, les norias. Regardez le système ingénieux, regardez quel système courageux que le système des norias. En fait, là, vous avez une grande et puis vous avez une plus petite. L'Égypte est un pays plat, sur toute la partie du Nil. C'est la plaine du Nil, d'accord ? Pays plat. Le pays où tu vas pénétrer, donc Israël, pour en prendre possession, ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos semailles, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias. Pourquoi les Hébreux devaient utiliser ces roues, actionner des norias, vous voyez, pour faire couler l'eau ? Parce que les Égyptiens avaient réservé pour leur cadre, et c'était une société très hiérarchisée, les terres les plus fertiles, c'est-à-dire les terres qui étaient au bord du Nil. Quand vous habitez au bord du Nil, même aujourd'hui, tout est vert. C'est incroyable. Le Nil, c'est de la verdure partout, au milieu, quand vous allez dans la Haute Égypte, vous avez des endroits, c'est incroyable la différence entre le désert à quelques dizaines de mètres, et tout d'un coup, tout devient vert quand vous approchez du Nil. Et les Égyptiens avaient logiquement pris pour eux les meilleures terres, les terres les plus proches du Nil. Donc du coup, si tu étais hébreu et que tu étais né en banlieue, que tu étais un fils d'immigré, tu n'avais pas les meilleurs coins pour irriguer. Donc tu ne pouvais pas avoir accès à des petites rigoles qui étaient naturelles ou bien à la crue du Nil. Tu étais obligé de trouver un système et de dire « Mais comment je vais survivre alors que moi, j'ai de la terre qui a 40 degrés ?» Alors que c'est du caillou, comment je vais faire pour amener de l'eau dans mon champ qui est à peine un champ ? Et les Hébreux, vous savez, c'était écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 1er, ils ont été mis en esclavage et on leur a demandé de construire, vous savez, pour le pharaon avec de la paille, etc. Comment ils font pousser ça s'ils n'ont pas d'eau ? Alors, le papa hébreu enseignait à son fils, la maman enseignait à sa fille. Voilà, on part avec un handicap, mais on va le surmonter. Et on va créer un système extrêmement ingénieux. On va utiliser notre cerveau, puisqu'on n'a pas un titre, puisqu'on n'a pas la carte d'identité, on va utiliser notre tête. Puisqu'on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas l'héritage, on n'a pas un papa qui habite dans le 16e, je vais devoir être courageux et bosser beaucoup plus pour arriver au même niveau. Et du coup, les Hébreux ont commencé à bosser avec ce système-là, extrêmement. Vous voyez, ils devaient tourner soit avec leurs pieds, soit avec leurs mains. Ils n'avaient pas forcément les animaux de trait qu'avaient les Égyptiens. Donc, c'était un travail considérable pour avoir un peu d'eau. Mais tout ça parce qu'il fallait qu'il y ait un petit peu d'eau qui coule dans la vie. Un petit peu d'eau qui coule dans la vie. Je ne sais pas s'il y a des mamans célibataires ici. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on est une maman célibataire, on a eu les mêmes rêves quand on était petite fille. Quand on voyait Cendrillon qui changeait et qui devenait une princesse. Et puis, on voyait qu'il y a un prince charmant qui un jour va t'ouvrir tous les carrosses. Mais quand t'es maman célibataire, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui ouvre la porte de la Clio. Et si t'attends que la Clio s'ouvre tout seul, tu vas attendre longtemps avant de rentrer dedans. Quand t'arrives dans un endroit où tu as une porte, il va falloir que tu te lèves et que tu la bouges la porte. Parce que personne ne va penser à la faire pour toi. Quand vous faites les courses avec un gamin dans le caddie, un autre à crier, machin, et que vous devez passer tout seul à la caisse, bravo. Bravo. Et ça ne tombera pas du ciel. Parce que le pays d'Égypte, c'est un pays plat dans lequel il ne pleut pas. Et la seule irrigation, c'est à toi d'aller la chercher en allant creuser, fabriquer des norias et tourner avec tes pieds, tourner avec tes mains jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu d'eau dans ta famille, jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu d'eau dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on fait des Hébreux pendant 400 ans. Mais dans ce pays de difficultés, vous voyez, ils ont réussi quand même à grandir. Parce que malgré les difficultés, le Seigneur les a bénis. Ils sont arrivés à 600 000 Hébreux, sans compter les femmes et les enfants, lorsqu'ils ont commencé à partir vers le pays promis. Moïse a amené un peuple qu'il y avait plus de 600 000 personnes, 600 000 qui avaient été habitués à travailler avec leur tête et à travailler avec leurs muscles pour pouvoir s'en sortir. Moi, c'est étonnant comment on développe, des fois quand on n'est pas bon dans quelque chose, comment on développe des complexes qu'on arrive à surmonter. J'ai vu un reportage incroyable. J'ai vu un petit gars, pas très beau, hein, honnêtement, pas très beau, tout petit, tout tassé, pas très beau. Des grosses lunettes. Et il passait, vous savez, dans les reportages, pas toujours très intelligents, les « c'est ma vie » et tout ça, non, c'est pas grave. Mais j'ai juste regardé parce que ça m'a choqué. Et je voyais ce tout petit tassé là, il avait fait de la muscu. Mais de telle façon, mais il avait des biceps de fou. Il s'était présenté au concours de bodybuilding. Et on lui demandait, avec ses yeux et son petit strabisme, là, il était là en disant « J'en suis sorti. J'en suis sorti avec mes muscles. Quand j'étais en quatrième, on se moquait de moi. Maintenant, je m'en suis sorti avec mes muscles. » Et je voyais sa femme qui était quelqu'un de très bien, qui avait pitié, non pas de se moquer de lui, mais parce qu'aujourd'hui, il était bouffé, consumé par son besoin d'avoir des muscles. Et il avait gâché sa vie et il avait gâché la vie de ses proches. Il prenait pas du tout soin de son fils parce qu'il était sans arrêt dans la salle de muscu à essayer de compenser un complexe qui datait d'il y a avant. Et vous saviez pas quoi? Le pire, c'est que sa chérie lui disait « Mais je t'aime avec ou sans tes muscles. C'est fini l'époque où... » Mais lui, dans sa tête, il était resté en quatrième, vous voyez, où il fallait qu'il prouve pour devenir un homme. Et il gâchait son présent en vivant dans le passé avec sa tête. Le pays dans lequel le Seigneur vous envoie ne ressemble pas au pays d'Égypte. Là-bas, vous deviez tourner les norias avec vos pieds. Vous savez, si jamais tu restes uniquement dans le passé, tu vas développer une fierté légitime à dire « je m'en suis sorti tout seul ». Je m'en suis sorti toute seule. Et vous voyez, il y a un moment où cette fierté, elle était nécessaire parce que les autres te prenaient pour un moins que rien. Et Dieu t'a béni, et Dieu a vu ton travail, et Dieu était heureux pour ça. Seulement, il y a un moment où, à force d'avoir pris des coups et d'avoir réussi à te durcir, eh bien, tu as durci ton cœur. Et le problème de ceux qui ont trop traîné dans le pays des Norias, maman célibataire ou pas, complexé ou pas, tu développes un cœur qui est dur comme la pierre. Je fais des entretiens, j'en fais beaucoup par an. Et combien de fois j'ai vu une jeune fille de 17, 18 ans qui me dit « Pasteur, moi j'ai vu ma mère, elle était complètement dépendante financièrement de son mari. Cet homme-là était dur, cet homme-là buvait et ma mère faisait tout. Et elle acceptait tout, elle supportait tout, elle lui pardonnait tout parce qu'il avait de l'argent et qu'elle n'avait pas de métier. » Et je voyais cette jeune fille, vous voyez la rage qui était là. Puis elle dit « Moi, je ferai mes études, je serai autonome financièrement, je dépendrai de personne. » Et elle avait développé, vous voyez, des sécurités pour vivre dans ce couple dysfonctionnel qui était le couple de ses parents. Mais moi, ma grande tristesse, c'est de voir quelques années plus tard cette jeune fille qui était devenue vraiment une femme, qui aurait dû s'installer dans la vie, incapable de construire un couple. Mais pour le problème inverse, parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un homme qu'il aimait, elle n'était pas capable de se laisser aimer. Elle n'était pas capable d'aimer. Qu'est-ce qui se passait? C'est que tout de suite, elle disait « Compte séparé. Je ne dépends pas de toi. » Il offrait un cadeau, elle le refusait. « Je ne veux pas dépendre de toi. Je ne veux pas que tu m'achètes. Je ne me ferai pas avoir comme ma mère. » Et vous voyez, d'un côté, son cœur, qui avait tellement souffert, s'était durci à un point qu'elle n'était plus capable de retrouver l'équilibre. Le système des Norias a forgé ton caractère, mais a durci ton cœur. Des fois, tu grandis tout seul parce que tu n'as personne pour t'aider. Mais est-ce que tu sauras faire confiance à ton Père Céleste? C'est le deuxième partie. Réapprendre à vivre dans le pays de la promesse. Tu as survécu au pays d'Égypte. Est-ce que tu sauras vivre sans tes Norias? Lisons ensemble Deutéronome 11, 11. Qu'est-ce que c'est beau. Deutéronome 11:11. Écoute ce que Dieu te dit. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de... De quoi ? Ils n'ont jamais vu ça, les Hébreux. C'est un pays de montagnes et de vallées, arrosées par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Alors ça fait bizarre parce que quand tu as survécu qu'à cause des crues du Nil et que tu es obligé d'attendre la crue du Nil pour avoir un peu d'eau et après avoir tourné et peut-être fait des pieds en sang tout d'un coup, tu dis quoi ? C'est un pays de montagne, de vallée, jamais connu ça. Un pays sur lequel l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Quoi ? C'est pas le Pharaon ? Non. Le Pharaon n'a aucun pouvoir dans ce pays-là. Oh, est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit ce matin ? Moi, c'est très dur parce que Dieu commence en disant, il dit... Est-ce que tu sauras apprendre la dépendance de Dieu ? Oh, c'est très compliqué d'accepter de dépendre de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on est hébreu et qu'on a survécu à l'esclavage d'Égypte, on veut dépendre de plus personne. Parce que ta liberté, tu l'as acquise. Et tu as ton orgueil, tu as ta fierté de ce que tu es devenu, des norias que tu as construites, et tu dis non. Et Dieu te dit, mais écoute, le pays dans lequel je t'amène, c'est un pays où coule le lait et le miel. Tu as juste qu'à mettre qu'à tendre la main et ça tombe. Qu'est-ce que je dois payer ? Non, tu ne dois pas payer. Qu'est-ce que je dois payer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut se lever à quelle heure pour avoir ce job ? Qu'est-ce que je dois faire dans mon temps de prière pour que Dieu me bénisse ? Qu'est-ce qu'il faut ? Et tu essayes d'acheter. Et tu essayes de faire tourner une roue pour essayer d'actionner l'eau du ciel. Mais tu pourras tourner tout ce que tu veux, il n'y a pas d'eau qui va venir. Parce que l'eau, elle descend direct. Il faut que tu remettes, vous savez, je vous avais déjà utilisé Windows. Ah là là, Windows. On l'aime bien parce que c'est un peu le seul, mais bon, à part Mac. Mais vous voyez, les updates, les mises à jour. Si tu ne mets pas à jour ton logiciel, il y a un moment, ton ordinateur, il servira à rien. Moi, j'ai un téraoctet de stockage. À quoi ça sert d'avoir un téraoctet de stockage si tu n'as pas le logiciel qui va avec ? Tu n'en feras rien du tout, tu ne pourras même pas lire tes données. Tu auras toute une intelligence stockée depuis des années, ça ne te servira à rien du tout si tu n'as pas le logiciel pour le lire. Oh. C'est un pays dont l'Éternel lui-même prend soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Ah, je vous ai peut-être dit ça, mais ça m'a tellement marqué que je me permets de vous le redire. Mes parents en Bretagne avaient acheté une maison un peu paumée au milieu de nulle part, mais magnifique, avec un grand jardin. C'est pas très dense, hein, l'habitat là-bas. Hein. Et un jour, on a vu arriver un petit chat sauvage qui sortait de je ne sais pas où. Il avait dû se balader pas mal pour arriver là. Et j'ai vu un petit chat sauvage que j'ai appelé avec beaucoup d'innovation, Minou. Donc, d'ailleurs, il avait gardé ce nom, Minou. Lorsque j'ai vu Minou arriver, il était squelettique. Mais il était libre. Et j'ai vu Minou arriver qui crevait de faim, mais qui ne voulait pas le montrer. Et comme j'ai un tout petit peu de cœur, j'ai été prendre des croquettes et j'ai mis dans une petite écuelle quelques croquettes pour Minou. J'ai vu Minou qui arrivait, trois pas vers l'écuelle, deux pas en arrière. Il me regardait. Lui, je ne veux pas dépendre de lui. Il rapprochait parce que son estomac lui disait « T'es quand même bête, Minou. » Et son cerveau disait « Je ne veux pas dépendre. » Et c'est exactement pareil face à part à Dieu. Vous ne vous laissez pas apprivoiser, vous voyez. Vous faites un pas et puis un pas en arrière. Comment ça? Si je prie, ouais, mais si Dieu ne donne pas, non, attention, il faut que je bosse tout seul. Et le Minou, avec son intelligence de Minou, a quand même compris un moment. Et il est venu, il a mangé les croquettes. Et puis il est parti. Et j'ai plus revu Minou pendant 2 jours. Jusqu'à ce que l'estomac de Minou l'incite à revenir vers cette personne de laquelle il ne veut pas dépendre. Et Minou se rappelle quand même en se disant « Ces croquettes étaient bien bonnes et ça ne m'avait pas coûté grand-chose. » Puis Minou revient et je lui remets des croquettes. Ça a pris 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, avec son intelligence de Minou, il a compris que la dépendance n'avait pas que du mauvais. Que lorsque c'est pour dépendre de quelqu'un de bon qui prend soin de vous chaque jour, il est dit que Dieu prend continuellement soin du pays du début à la fin de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si aussi mauvais que je suis, Minou a eu confiance en moi, à combien plus forte raison toi, tu pourrais avoir confiance dans ton Père Céleste qui a dit « Je prendrai soin de toi du début jusqu'à la fin de l'année ». Sauf que dès que tu vois que tu arrives du pays, tu dis « Waouh, 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 qu'est-ce qu'il faut payer ?» Me ramène pas des souris, j'en mange pas. Me ramène pas de la monnaie de Minou, je sais pas ce que c'est. Moi, vous voyez, ça me coûte rien les croquettes, quasiment rien. Donc c'est un plaisir de donner chaque jour à manger au Minou. Et jamais, jamais je n'ai pensé à affamer Minou pour lui montrer combien j'étais quelqu'un de fort. Jamais. À combien plus forte raison tu penses que ton Père Céleste va pas te mettre en test en disant « Tiens, regarde, je vais pas te donner de quoi financièrement juste histoire que tu comprennes bien. » Mais vous connaissez pas Dieu ou quoi? Vous connaissez pas Dieu? Dieu dit « Je prendrai soin du pays 24-24, 7 jours sur 7. » Et c'est tellement étonnant parce que, vous voyez, les Israélites, ils voulaient faire des stocks. Ils devaient faire des puits. Il devait faire des stocks d'eau lorsque le Nil repartait, qu'on était en période sèche et qu'il n'y avait pas de crue du tout. Il devait faire des stocks d'eau. Vous imaginez boire l'eau qui n'était pas fraîche, qui avait traîné plusieurs mois comme ça? Ça devait être quelque chose. Il faut la boire uniquement parce que vous avez soif. Hein. Mais Dieu dit, l'eau que j'ai prévue pour toi, c'est de l'eau fraîche. Elle descendra chaque jour. Le lundi, Dieu donne la pluie. Le mardi, Dieu donne la pluie. C'est un pays de montagnes. À chaque fois qu'il y a un nuage qui arrive sur la crête des montagnes, sur le mont de l'Hermont, il pleut. C'est un pays pluvieux. Le pays des montagnes est un pays pluvieux. Oui, mais Dieu, et si un jour il ne pleuvait pas? Eh bien, j'aurais pas mes norias. Et c'est pour ça que tout le problème des Israélites a toujours été de se dire « Ah oui, en Égypte, c'était pas cool, mais quand même, on était autosuffisants. » Vous vous rappelez tous les textes là qui parlent dans l'Ancien Testament? Combien de fois ils disent « On avait des melons, etc. » que l'on faisait pousser. De toute manière, les Égyptiens ne leur donnaient rien. Hein. Croyez pas que les Égyptiens allaient leur dire « Oh, petit esclave, je vais te donner un supplément aujourd'hui. » Non. Et du coup, dépendre de Dieu, ça veut dire que chaque jour, lorsque je vais devant mon Père, je prends ma Bible et que je prie, la seule prière que Jésus m'a demandé de faire, c'est dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui !» Pas le pain de demain, pas le pain d'après-demain, le pain de ce jour. C'est ça les chrétiens. C'est chaque jour, je dis « Seigneur, tu as ce qu'il faut pour ma vie sentimentale. Tu as ce qu'il faut pour ma vie familiale. Tu as ce qu'il faut pour ma vie professionnelle. Mon avenir est entre tes mains. Mon passé l'était aussi. Mon présent est entre tes mains. Je crois que Dieu est celui qui veille sur son pays. » Ah, j'ai oublié de te dire. Le pays, le problème. C'est parce que toi, tu ne le connais pas. Quand vous êtes israélite et vous avez vécu dans un pays plat, vous arrivez dans un pays qui ressemble à rien, il y a des montagnes, il y a des vallées. Vous ne savez pas faire, moi non plus d'ailleurs. Vous savez ce que dit l'Écriture? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, Dieu le tient en réserve pour ceux qu'il aime. Oh, c'est fort, hein? Ce livre est inspiré. Hein? Toi, tu ne connais pas le pays, mais le pays, il est connu de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le pays, la mentalité dans laquelle Dieu veut te faire rentrer, c'est un pays où tu dis, j'apprends à faire confiance. Et c'est dur. En fait, c'est dur. Le pays de la dépendance, c'est dur. Le psaume 127, on peut le lire? Il peut s'afficher sur vos écrans? Le psaume 127. Mais regarde ce que Dieu te dit. Le psaume 127. C'est le roi Salomon qui, pourtant, ne manquait de rien, qui l'a écrit au verset premier. Cantique vers la route, lorsque tu es en route pour aller vers le pays promis, vers le pays de Dieu. Écoute ce que tu dois chanter. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain la sentinelle ne veille. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Et il va un petit peu plus loin, il dit, au verset 2, oui, c'est en vain que vous levez très tôt, que vous vous couchez tard. Je ne vous dis pas de rien faire, hein, mais je vous dis, remettez les priorités dans l'ordre. C'est en vain que vous vous levez très tôt, que vous vous couchez tard et vous vous donnez tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne... Oh non, c'est énervant. C'est énervant parce que c'est la mentalité de la grâce. C'est énervant. Parce que quelque part, on a encore une mentalité qui est restée en Égypte. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. T'as pas compris, hein? Le nombre d'heures que tu passes à tourner ta noria qui ne sert à rien. Allez, je vous laisse en disant, apprendre la dépendance, mais c'est aussi apprendre la providence. Ah, la bonne providence de Dieu. Vous savez, Dieu est le Dieu de la grâce, hein? Le Dieu de la grâce. Je vous parlais de la monnaie. En Égypte, il y a une monnaie, il y avait des petites monnaies. Sur toutes les monnaies, il y avait le pharaon, où il y avait le Nil qui était représenté. La monnaie du ciel, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Dans le pays promis, la monnaie, c'est la foi. Et c'est très, très déstabilisant. On paye et on reçoit en fonction de la foi. C'est quoi la foi? Alors, je vais vous donner la définition de la Bible. La Bible dit la foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien. Qu'est-ce que je dois donner pour recevoir? Rien. Dans le pays de Dieu, quand vous serez au ciel, vous n'allez pas payer en euros, on est d'accord, hein? Vous n'allez pas payer en dollars, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien, comme dit le proverbe juif, de mourir le plus riche du cimetière. Ça ne sert à rien. Vous arrivez là-haut, rien du tout. Vous en portez rien. Et on sera jugé en fonction de notre foi, c'est-à-dire notre capacité à faire confiance à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. La foi, c'est une mentalité de quelqu'un qui renonce à sa fierté, qui renonce à ses sécurités, qui renonce à son contrôle. Oh là là, vous savez, ce n'est pas du tout naturel pour moi non plus. Hein. Ce n'est pas du tout naturel. C'est pour ça que je le prêche, parce que je me parle à moi-même en premier, parce que c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas naturel de le faire. Oh, le naturel, il revient au galop. Hein. Il revient... Oh, vous avez fait un DESS à la Sorbonne, vous avez fait des études dans votre pays, vous avez poussé au maximum. Et vous en êtes sorti grâce à votre travail. Et il y a votre adote là, de 16 ans, à qui vous avez tout donné, tout mâché, tout donné. Et qui vous fait des caprices de gamine là. T'as jamais rien fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça monte. Vous avez remarqué comment vous parlez là? Eh, ceux qui viennent d'Haïti là, honnêtement. Là, vous ne parlez plus en français, hein? Quand vous êtes vraiment énervé, ça sort dans la langue du pays. Hein. La fille, elle ne comprend rien parce qu'elle ne connaît pas. Hein. Mais là, elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Vous êtes venu de Kinshasa. L'ado, il a pris des libertés. Jusque-là, vous parliez en français. Mais là, ça sort dans la langue de la maman. Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'Égypte où on dit « Oh purée, ça, là, t'as franchi une ligne rouge !» Que moi, dans mon pays... on mérite. Ça, c'est une petite noria, une toute petite noria que vous avez gardée en sécurité quelque part, au cas où vous n'arriviez pas à vous justifier dans la langue du nouveau pays. On est tous pareils, à chasser le naturel, un jour arriver au galop. Faut demander à Dieu de nous donner de... Seigneur, je sais que je m'en suis sorti par mes propres forces jusqu'à présent. Mais donne-moi le courage d'abandonner mes sécurités et mes systèmes de survie parce qu'ils ne me seront plus utiles dans le pays dans lequel tu m'amènes. Je conclue avec ce que Dieu leur demande. Ils demandent quelque chose. Ah, bah, vous voyez qu'ils demandent. Ah non, mais pasteur, est-ce que vous nous avez trompés? Non, regardez ce que Dieu dit. C'est quoi les commandements? Donc, si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, regardez, il y a deux commandements que Dieu te donne. Au verset 13. Les deux commandements que Dieu te donne. Les seules conditions pour avoir la pluie tous les jours. Si vous obéissez aux commandements que l'Éternel vous donne aujourd'hui, écoutez, en aimant l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est le premier des commandements. Ça veut dire quoi? Que tu l'aimes. Et vous voyez, quand tu as un cœur dur, ce qui coûte le plus, c'est d'aimer. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne. Tout ce que toi, tu as appris à presque à ne pas faire pour pouvoir survivre. L'amour ne cherche pas son propre intérêt pour survivre. L'amour espère. L'amour... Oh, à Corinthiens 13. Vous comprenez ce que Dieu dit? Moi, je ne te demande pas grand-chose. Je te demande de changer ta relation. Le Pharaon, tu ne l'as jamais aimé. Mais le Dieu du pays dans lequel tu vas est un Dieu qui ne se fait pas payer autrement que par amour. Il t'a choisi par amour. Il demande de toi simplement que tu l'aimes. On n'est pas dans une relation du tout marchande. Et pour terminer, en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être. C'est extra. Le culte, c'est quoi? C'est juste dire, Dieu, je t'apporte ce que je veux, mais je le fais de tout mon cœur. Je t'apporte juste le fruit de tout ce que tu m'as donné et je viens vers toi et je te le donne de tout mon cœur. Je te fais confiance. Dieu te dit, moi je veille sur ton pays, arrête de t'inquiéter, toi veille sur ton cœur. On va fermer les yeux ensemble. On va fermer les yeux ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Quand je suis arrivé chez vous, je me sentais faible et je tremblais de crainte, dit l'apôtre Paul. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi est fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a pas soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Je m'adresse à quelqu'un, peut-être la vie jusqu'à présent ne t'a pas épargné. Et comme les enfants de Dieu en Égypte, tu as appris à survivre grâce à tes efforts chaque jour, à ton ingéniosité pour compenser ce que la vie ne t'avait pas donné. Et Dieu t'a permis de survivre au pays des Norias et il admire ton courage. Mais voici ce que dit l'Éternel ton Dieu, que le pays dans lequel tu vas pénétrer pour prendre possession ne ressemble pas au pays d'Égypte. Le pays que Dieu a prévu pour toi, c'est un pays de montagne, un pays de vallée, un pays de la dépendance, un pays de la providence, car lui-même veille sur ce pays. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur de lâcher mes sécurités, j'ai peur de te faire confiance, j'ai peur que un jour il pleuve plus sur mes montagnes, j'ai peur. Remets tes craintes à Dieu, confie-toi en l'Éternel, il agira. Il le connaît, il connaît l'esprit humain, il connaît ton cœur, il a connu le cœur de ta maman, il a connu le cœur de ton papa. Il y a des trucs qu'on a tous de génération en génération. Et Dieu prendra soin de toi. C'est un pacte que Dieu fait avec toi. On va se lever ensemble. Il y a un hymne que chantaient nos anciens qui disait « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, mon Père, ma prière de reconnaissance et d'amour. C'est la seule chose qui remonte de toi. Un cœur qui aime l'Éternel et un culte agréable.
Toi.
Que par
Seigneur Jésus.